Alors bonjour à tous et à toutes. Pour moi, c'est un honneur d'être présent parmi vous ce matin. Non, on est l'après-midi. Je suis déjà en train de faire la sieste. Mais c'est vrai que quand mon frère Carré m'a demandé de venir apporter une prédication sur le thème « L'appel du Seigneur dans la vie du chrétien » ou « L'appel au ministère », je me suis dit, c'est un thème qui est trop riche pour l'apporter en quelques heures ou en quelques minutes. Mais le Seigneur fait de grandes choses parmi nous. Il appelle, il continue à appeler les gens, il continue à appeler les chrétiens. La question que l'on doit se poser, nous, c'est est-ce que nous avons le cœur favorable à l'appel du Seigneur? C'est pas le tout d'être en compagnie de chrétiens, on est joyeux pour un moment, on est enthousiaste pour une seconde, et le reste de l'année, on ne fait plus rien pour le Seigneur. On se laisse embarquer par la vie quotidienne, par le travail, par les soucis de la vie, et le résultat, c'est qu'on n'a plus l'oreille de notre cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. Ce matin, on a eu deux bonnes prédications. On a eu vraiment ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je suis au grand regret de reconnaître que, en tant que chrétien, on se voile la face. On se met des œillères en face des yeux en disant « Je ne suis pas appelé à servir le Seigneur. Je ne suis pas appelé à rentrer dans le service du Seigneur parce que je ne suis pas parfait. » Parce que je n'ai pas une grande connaissance de la parole de Dieu, parce que je n'ai pas les qualités, les qualifications nécessaires. Notre frère Boisdin ce matin disait que pour être appelé au Seigneur, il faut pas avoir tout cela. Il faut juste être prêt à entendre. Les premiers chrétiens qui se sont convertis ont accepté à suivre le Seigneur parce qu'ils ont compris que il méritait, il était digne d'être suivi. C'est pourquoi, frères et sœurs, la question que vous devez vous poser cet après-midi, c'est la question que le Seigneur se pose toujours, c'est qui enverrai-je? Et cette grande question, on a souvent tendance à la mettre de côté en disant c'est pas pour moi, c'est pour monsieur un tel, c'est pour ma sœur un tel, mais moi non. Et comme notre frère Boisdin, je me suis dit, ça y est, mon frère, il va prêcher mon message, et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Et souvent, le pasteur, le serviteur de Dieu se pose la question, mais qu'est-ce que je vais dire pour un tel sujet? Dans un tel sujet, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais le Seigneur a réussi à mettre toute une bibliothèque dans un seul livre. On peut regarder autour de nous, il y a des livres, et c'est enfermé sur des étagères. Mais là, c'est sur un seul livre. Et tout le conseil de Dieu, tout l'amour de Dieu, tout ce que Dieu attend de nous, se trouve dans les 66 livres de la Bible. Et effectivement, quand on prend le temps de regarder, de piocher, ne serait-ce qu'une racine de la richesse de cette parole, eh ben, on est béni au centuple. Frères et sœurs, et chers amis, qu'en est-il pour vous de cet appel dans votre cœur? Est-ce que vous allez accepter de servir le Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce que vous allez continuer à vous voiler la face en vous trouvant des excuses, comme quoi je suis incapable, comme quoi je n'ai pas les qualifications, comme quoi je ne connais pas la parole de Dieu pour servir le Seigneur? Est-ce qu'on va être un Moïse qui a essayé d'argumenter son appel en face du Créateur? Est-ce qu'on va être comme certains qui se disent « Je n'ai pas l'éloquence du langage pour me trouver devant les gens et annoncer l'Évangile » Ou est-ce qu'on est prêt à dire « Je suis de ces chrétiens non pas de nom, mais de cœur. Et je veux accepter l'appel de mon Seigneur qui me dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Quelles sont les conditions de tel appel? Nous allons regarder cet après-midi ensemble trois conditions que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et effectivement, trois conditions, ça paraît peu, parce que les conditions sont nombreuses dans la parole de Dieu. Et si on devrait prendre le temps de parler de ces conditions, on n'aurait pas assez de d'une journée ou d'une semaine. Mais rien que ce que la parole de Dieu va nous encourager à faire à travers ces conditions, ça va nous donner l'occasion à nous de se poser les bonnes questions. Parce que je suis triste d'entendre de la bouche de chrétien de dire le service de Dieu, c'est pas pour moi. Je suis là, j'ai accepté le Seigneur, mais voilà, c'est tout. Le Seigneur n'a que faire des convertis. Il veut des disciples. Est-ce que cet après-midi, on a affaire à des disciples ou à des chrétiens de nom? Des chrétiens, j'en croise à chaque coin de rue. Des disciples, j'en croise très peu. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour être disciple du Seigneur? Et ces conditions, ben la première, c'est, on en a entendu pas mal ce matin, la repentance. Le Seigneur ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas fait le pas vers lui en demandant pardon pour ses péchés. On ne peut pas dire, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, je vais embrasser le Seigneur, je vais prendre toutes les occasions nécessaires pour annoncer l'évangile parce que je suis convaincu. Comment une personne comme cela, qui n'a jamais fait le pas vers celui qui nous a donné sa parole, ne l'ouvre jamais? C'est là qu'on appelle les doctrines de démons, c'est là qu'on appelle des doctrines qui endorment l'esprit. Des gens avec beaucoup de connaissances, on en rencontre. Des personnes avec la bonne connaissance, on en rencontre peu. Ouvrez avec moi la parole de Dieu dans Ésaïe. C'est pour ça que je disais que mon frère Boisdin allait prêcher sur mon message. Je me suis dit, mince, il va falloir que je choisisse un autre passage. Mais encore une fois, on voit ici le lien par rapport à toutes les messages qu'on a entendus. Ésaïe chapitre 6, et nous lirons les versets 5 à 7. C'est justement cet appel au service de Ésaïe. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ici, Ésaïe se trouve face à une vision et le Seigneur apparaît devant Ésaïe pour lui demander de le suivre et de le servir. Et quand on prend le temps de prendre le contexte de ce passage, quand on prend le temps de lire le livre d'Ésaïe, eh ben on se rend compte que le ministère même, le service même d'Ésaïe était compliqué. Je ne connais personne qui accepterait de servir Dieu si on lui disait « En fait, tu vas aller prêcher pour endurcir les cœurs. » Quoi, Seigneur? Non, mais je pensais que tu voulais que tout homme vienne à la repentance. Oui, mais ce peuple a endurci tellement son cœur que je veux qu'il devienne sourd. Et justement, quand on prend le temps de lire ces passages, on voit ici que Ésaïe prend peur. Il est effrayé par ce qu'il voit. Déjà par la beauté qu'il voit, mais déjà par la présence même du roi des rois. Et on sait tous que de se trouver devant le Seigneur, on ne tient pas debout. On peut être foudroyé. Et c'est ça, cette peur-là que Ésaïe avait. Et il dit, malheur à moi! Mes lèvres sont quoi? Mes lèvres à moi ne sont pas pures. Quand je me mets en colère, des fois, il y a des mots qui devraient même pas sortir de cette bouche. Qui devraient être bannis, mais ça sort. Et pourtant, ici, Ésaïe reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît ici que sans Dieu, il est perdu. Il reconnaît ici que pour servir Dieu fidèlement, honnêtement, eh ben, il faut déjà passer par la vraie repentance. Pas par la repentance intellectuelle, pas par la repentance émotionnelle. Cette repentance qui vous oblige à vous détourner de votre ancienne vie et de dire, oui, là, Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis perdu, que sans toi, si je ne t'ai pas dans ma vie, je ne suis rien. Et c'est ça qu'Ésaïe ici reconnaît en disant, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et il ne dit pas juste ça. Il aurait pu s'arrêter là, c'était suffisant. Mais il dit, je suis parmi un peuple dont le cœur et les lèvres sont impures. Vous pensez sincèrement que de l'époque d'Ésaïe à notre époque, 2015, il y a quelque chose qui a changé? Vous pensez que notre cœur est meilleur? Que nos lèvres sont meilleures? On est devenu meilleur par le temps? Non. Le Seigneur dit, ça va en se dégradant. Et plus que ça se dégrade, plus l'heure est grave. Ici, Ésaïe reconnaît qu'il est perdu, qu'il est pécheur. Et là, à ce moment-là, le miracle s'accomplit. Là, c'est un ange, un séraphin. Alors déjà, au-dessus, il donne le détail de l'ange. Moi, je vois quelque chose comme ça, avec plusieurs ailes, et puis les ailes qui cachent ses pieds, et d'autres qui lui servent de voler. Moi, j'attrape peur. Je me sauve. Mais ici, Ésaïe est stupéfait, et il voit cet ange venir avec une pierre ardente. J'ai déjà essayé de prendre ne serait-ce qu'un morceau de bois bien rouge dans mes doigts. Je l'ai pas tenu longtemps dans mes doigts. Je l'ai relâché de suite. Mais ici, cette pierre ardente a été prise de l'autel. Et pour moi, parce que la Bible dit que cette pierre, quand elle lui a été posée sur ses lèvres, ses péchés et son iniquité a été effacée. Pour moi, je pense que cette pierre représente notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui peut pardonner les péchés, c'est pas un bout de caillou, c'est pas un morceau de charbon, c'est pas un morceau de bois. Pourtant, il y en a qui croient que le morceau de bois va sauver. Ou on croit que. Mais ici, Ésaïe reconnaît que c'est pas du fait que l'ange est venu poser ça sur ses lèvres qu'il a été sauvé. C'est parce qu'il a vu Dieu et que Dieu a permis et a reconnu que Ésaïe reconnaissait qu'il était pécheur et que c'est là qu'il a accepté le pardon. On peut se voiler la face comme on veut. On peut tourner autour comme on veut. Si on n'est pas sauvé réellement, on ne peut pas servir Dieu. Et beaucoup vont se prétendre être serviteurs de Dieu, mais ils renient ce qui fait la force de la prédication, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette repentance, c'est aussi en fléchissant le genou. Et là, on va tourner dans un autre passage. J'ai pris que deux exemples. Samuel en a partagé quatre. Mais il y a tout le livre, toute la Bible parle d'exemples d'hommes et de femmes qui ont servi l'Éternel, qui ont donné leur cœur au service du Seigneur. Actes chapitre 22. Verset 6. À 11. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent point la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Fléchir le genou. Il y a plusieurs façons de fléchir le genou. Ici, l'apôtre Paul tombe littéralement face contre terre. Et là, en faisant quoi ? On va revenir un peu en arrière dans l'histoire. C'était qui, Saul de Tarse ? Un persécuteur, un meurtrier. Si on change le mot persécuteur et on met meurtrier, c'est équivalent pour moi. Un meurtrier est une personne qui avait une haine tellement forte pour ceux qui annonçaient Christ. Il voulait les exterminer parce qu'il était tellement enthousiaste pour sa religion, qui était le judaïsme, il était prêt à exterminer tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus-Christ. Pourquoi une telle haine envers le nom de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vu des changements vis-à-vis de la haine de Jésus-Christ en 2015? Si vous avez vu un changement, il faut me le dire, parce que moi, là où je suis, j'entends des phrases « il me casse les pieds », par dire d'autres termes, avec leur Jésus-Christ. C'est quoi ces fous avec leur religion et leur Jésus? Rien n'a changé en 2015, et il y a 2000 ans, quand l'apôtre Paul s'est converti. La différence, c'est que Saul a vu le meurtre d'Étienne, et il était tellement content, il tenait même les vêtements. Il regardait, il observait, il souriait. Ah, ça y est, un de moins. Le problème, c'est que les chrétiens, ça pousse. Mais si on devrait prendre un exemple, il y a des mauvaises herbes, on peut les tuer, on peut prendre les produits et les exterminer, ça repoussera toujours. Le chrétien, par la puissance qui est en lui, qui est Jésus-Christ, on peut l'exterminer, mais le témoignage, on ne l'exterminera jamais. Et ici, l'apôtre Paul, Saul de Tarse ici, reconnaît ici, en voyant cette lumière, qu'il a à faire face à quelque chose de pas normal. Et c'est en voyant le Seigneur lui-même, et lui-même, l'apôtre Paul va dire ici, dans ses écrits, « Je suis le rejetant, celui qui a vu la gloire du Seigneur. » C'était le seul à avoir vu le Seigneur en gloire. Il dit, je ne méritais pas un tel privilège. Mais pourtant, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Vous pensez que l'apôtre Paul n'a pas eu de problème, d'insulte? Il n'a pas été battu à cause qu'il partageait sa foi? Si. Mais à ce moment-là, il a reconnu, il a fléchi le genou en disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Avant, il n'était pas parti pour servir le Seigneur. Il était pour servir les hommes. Et ici, du fait qu'il a reconnu Jésus-Christ dans sa vie, ça a changé complètement sa vie. Il s'est dit, je vais obéir au Seigneur. Je vais m'investir. Le Seigneur m'a dit de me lever, de continuer ma route vers Damas. Je vais y aller. Je vois rien, mais mes collègues vont me ramener à l'endroit où il faut. Et la personne que le Seigneur va m'envoyer pour m'expliquer ce que je dois faire, j'écouterai. Mais avant cela, les personnes ne sont pas prêtes à entendre. Parce que c'est pas des bouchons qu'ils ont dans les oreilles. C'est de la cire. C'est des cailloux. Et il faut le marteau-piqueur de la parole de Dieu pour transpercer les oreilles pour que les personnes puissent entendre. J'espère que cet après-midi, je n'ai pas affaire à des frères et sœurs qui ont les oreilles aussi dures, mais qui sont prêts à entendre ce que le Seigneur a à dire dans leur cœur. Est-ce que nous sommes prêts à fléchir le genou aujourd'hui et de nous dire « j'ai perdu trop d'années ». Parce que là, on parle en années, on parle pas en jours. Quand je regarde les exemples bibliques ici, je vois des chrétiens qui se convertissent et une fois avoir fait ce qu'il fallait, ils se sont mis à servir le Seigneur. Et ça n'a pas pris 10 ans, ça n'a pas pris 20 ans, 30 ans, 1 an, le jour même. Donc, la question c'est, mais oui, mais ça c'était à l'époque. À notre époque, c'est plus difficile. Non. Le Seigneur n'a pas changé de discours. C'est nous qui avons changé de discours. C'est nous qui nous trouvons des excuses. Donc, qu'allez-vous faire? Continuez à être aveugle ou vous laissez éclairer. La deuxième condition ici, c'est d'accepter d'être un disciple. Regardez avec moi dans Acte 22, on y est, et les versets 12 à 15, il est dit « Or un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue ». Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Des choses que tu as vues et entendues. Voilà notre Saul de Tarse qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ lui avait dit qu'il enverrait quelqu'un pour lui parler, il lui envoie Ananias. Donc, on fait un pas en arrière dans l'histoire. Ananias avait entendu parler de Saul de Tarse, persécuteur de chrétiens, meurtrier. Il disait, non, mais il va me tuer quand il va me voir. C'est cet homme-là que tu veux que j'aille voir? Oui, c'est cet homme-là que tu vas voir parce que cet homme-là, je l'ai choisi pour me servir et me suivre. Il va être un outil entre mes mains pour la grâce et ma gloire. Et ici, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, ici, reçoit Ananias, et Ananias, du coup, change de discours. Il dit, il l'appelle plus le meurtrier, il l'appelle mon frère. Frère Saul, voici ce que Dieu attend de toi. Voici la volonté de Dieu pour toi. Voici ce que Dieu attend de toi. Tu seras le témoin envers tous les hommes. Et vous pensez que ça s'adresse juste à un Paul? Vous pensez que ça s'adresse juste à un pasteur Abed, à pasteur Daudelaire, à pasteur Knickerbocker? À moi-même? Non. Nous sommes appelés à être des témoins. Et le mot témoin ici, ça veut dire disciple. Être des disciples pour le Seigneur, ça veut dire que on est prêt à accepter notre condition, notre nouvelle condition qui est je suis avec le Seigneur, je suis son enfant, donc je suis son serviteur, son disciple. Le Seigneur n'a pas fait de convertis. Il a fait des disciples. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à la conversion. Il a donné toutes les armes qu'il faut pour qu'on soit des bons disciples. Donc, à nous, frères et sœurs, de nous dire qu'est-ce que nous allons faire de ce témoignage, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à notre engagement. Est-ce que nous sommes prêts à suivre les directives de Dieu? Ou est-ce que nous sommes prêts à suivre les directives des hommes? Est-ce que nous sommes prêts à suivre tout ce que Dieu nous enseigne? Ou est-ce que nous sommes prêts à écarter certains thèmes, certains sujets de sa parole? Être disciple, ça engendre aussi d'être attentif à la parole de Dieu. Et c'est ça qui manque parmi nous. Parce que on est là, on entend des messages, on entend les prédications, et la semaine passe, les jours passent, les heures passent, et on a tout oublié. D'ailleurs, l'apôtre Jacques va dire que nous sommes des auditeurs oubliés. Mais mettons en pratique la parole de Dieu, on ne sera pas des auditeurs oubliés. Je n'ai pas affaire à des novices. Je n'ai pas affaire à des bébés dans la foi. Même si ça fait un mois que vous vous êtes converti, vous avez déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui vous empêche à suivre Dieu? Vos formations? Vos idéaux? Ou votre voile que vous êtes mis devant les yeux pour ne pas servir Christ. Servir Christ et être prêt à entendre l'appel de Christ dans notre vie, c'est être prêt à entendre ce que Christ a à nous dire. L'apôtre Paul était prêt à entendre ce que Christ avait à lui dire. Ésaïe était prêt à entendre ce que Dieu avait à lui dire. Moïse et d'autres. Moi-même. J'ai entendu pour la première fois l'appel de Dieu en 1994 dans un camp d'hiver. Et c'est la prédication de notre frère Bernard Daudeler, pasteur Bernard Daudeler, qui m'a touché à ce moment-là. Et pareil, cette question que j'avais lue dans Ésaïe, qui enverrai-je? Je disais, moi jamais de la vie je serai pasteur, moi jamais de la vie je serai serviteur de Dieu, moi jamais de la vie parce que au niveau élocution, zéro. Au niveau connaissance, zéro. En fait, je suis un gros nul. Donc, Dieu ne veut pas de gros nuls. Ça, c'était ce que je me disais moi. Mais le Seigneur me disait, mais qui t'a dit que t'es nul? Qui t'a dit que tu ne valais rien? Moi? Non. Et quand le Seigneur m'a touché à travers juste cette phrase, qui enverrai-je? Je n'ai pas pu faire autrement que de lever ma main et dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Seigneur, je veux te suivre et te servir. Et cela, peu importe le prix qu'il faudra payer. Vous pensez que vous vous êtes converti, que la vie est un gâteau avec des cerises autour? Le gâteau avec les cerises autour, c'est quand on sera avec le Seigneur. Il nous prépare un beau gâteau de fête. Mais là, j'ai travaillé pendant quelques semaines un jardin. Moi, jamais de la vie, j'avais dit, j'aurais décidé de faire un jardin de ma vie. Et ben, à travers le gros soleil à 33 degrés avec mon petit frère à retourner la terre, j'ai fait, comment ils font les gens pour faire ça? Mais là, j'ai vu à quel point le travail de la terre était importante. Il y a des racines qui poussent et on se demande s'il n'y a pas... On a trouvé des cailloux comme ça en dessous de la terre, on s'est dit, il y a même des rochers qui poussent dans la terre. J'avais découvert ça de ma vie. Et je me suis dit, mais ils sont malades ceux qui veulent faire un jardin pour gagner des tomates et des poireaux et des choses et tout ça. Mais j'ai regardé cette terre et je me suis dit, ben voilà dans quel état mon cœur il est. Quand je refuse d'accepter ce que le Seigneur me demande. Être disciple, ben oui, ça demande du travail. Être disciple, ça demande d'être attentif. Parce que l'apôtre Paul a écouté ce qu'Ananias avait à lui dire. Et quand on connaît l'histoire de Paul, il n'a pas attendu des années avant de se lancer. Il s'est lancé de suite et après il a pris le temps encore 3 années à un endroit pour parfaire sa connaissance du Seigneur. Mais on est très fort dans les excuses. On va trouver l'excuse financière. Ça, c'est la plus grosse excuse qu'on peut trouver. Oui, mais tu sais, si tu n'as pas telle et telle situation, tu ne pourras pas faire telle et telle chose. Et j'y croyais, moi, à ces phrases. Oui, si j'ai pas ça en place, eh ben, je pourrais pas faire ça. Et le Seigneur, en fait, il m'a pris, il m'a mis dans une situation dans laquelle je me suis retrouvé, je me suis dit, comment je vais faire? Même aujourd'hui, je me dis, comment je vais faire? Même avant d'arriver à l'institut, je me suis dit, comment je vais faire? Effectivement, quand on se met des barrières, on croit que ces barrières sont électriques, hein, que si on va les toucher, elles vont nous griller sur place. Mais c'est mal connaître notre Seigneur. On a tendance, en tant que chrétien, d'appauvrir notre Seigneur. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je vous ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Nous on dit, Seigneur, tu dis que tu vas ouvrir les écluses, tu veux dire que tu vas ouvrir la machine à laver. Oui. Mais déjà, rien que d'ouvrir le hublot de la machine à laver, c'est déjà beaucoup. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à l'écluse. Il s'arrête pas à l'hublot de la machine à laver. Il dit, il ouvre le ciel pour nous bénir. Et nous, en tant que chrétiens, on dit, ben non, Seigneur, t'es pas capable. Je te crois pas parce que il faut que j'ai une carrière. Il faut que j'ai ça en place. Il faut que je... Mais vous avancerez jamais. Vous serez comme la femme de Lot, une statue de sel. En fait, vous serez des chrétiens salés. Mais pas des disciples. Parce que moi, j'ai beau aller dans les cathédrales. J'aime beaucoup aller dans les cathédrales parce que c'est beau à l'intérieur. Bon, c'est mort, mais c'est beau. Mais quand on regarde autour de nous, il y a ces belles statues qui vous fixent des regards sans vie. Et d'un seul coup, je m'arrête, je me dis, est-ce que je suis comme cette statue? Et on pourrait me dire, mais il est fou, lui. Alors lui, on n'est pas des statues. Mais si. Quand on trouve des excuses pour ne pas servir Dieu, on est des statues et non pas des disciples. Parce que les disciples, les véritables disciples du Seigneur, ont porté leur croix, se sont tournés vers Jésus-Christ et ont accepté tout ce que Christ a demandé de faire. Est-ce la première fois que vous entendez qu'il faut se donner pour le Seigneur? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous dit « arrêtez de vous trouver des excuses » Je ne pense pas non plus. Mais comme on est les champions du monde, on pourrait presque ouvrir une école du championnat de France de l'excuse pour pas servir. On serait les premiers. Mais ici, frères et sœurs, amis, c'est est-ce que je suis un disciple ou est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que j'aime le Seigneur comme il me le demande, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, ou je ne l'aime pas? Posez-vous cette question. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur? Là, là maintenant, tout de suite, vous allez me dire, ah oui, je l'aime. Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour le servir? Là, attention, hein. Là, on va aller vraiment à pas de velours. Et même si j'ai des gros pieds, je vais essayer de me les cacher les pieds et de marcher sur la pointe des pieds pour y aller. On est des anguilles. L'anguille, elle est capable de fuir tout obstacle. Et parfois, en tant que chrétien, on fait l'anguille. Ou on fait l'autruche. Bon, ça, c'est une différence. Mais j'ai travaillé avec un berger au milieu de moutons. Et c'est là que je me suis découvert tout seul. J'ai regardé la pauvre brebis, je me suis dit, ah tiens, ça c'est moi. J'ai jamais vu un animal aussi têtu, borné et stupide qu'une brebis. La brebis, elle va voir le champ plus vert là-bas, mais elle va voir qu'il y a un fil électrique. Ah, ça va pas la changer d'avis. Elle va y mettre son museau, elle va se prendre la châtaigne, elle va faire B. Elle va repartir et elle va revenir B. Au point où elle va se coincer et finir par mourir parce que elle va absolument aller là où il faut pas. Où le berger lui dit, non, c'est pas là-bas ton pâturage, c'est ici. Mais non, là-bas c'est meilleur. Et ben voilà comment nous réagissons chaque fois. Le Seigneur nous a mis des barrières pour qu'on n'y aille pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On est des béliers, on y va tête baissée et on fonce. Et au bout d'un moment, on se prend le coup de jus et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, mais c'est là-bas qu'il faut que j'y aille. Et on insiste. Et à force d'insister, le Seigneur laisse faire. Mais maintenant, on se tourne vers l'animal fidèle, le chien. Un chien de berger va écouter tous les ordres du berger. Et le berger, il a juste à faire les gestes. Et le chien va l'exécuter. Mais je suis le chien du Seigneur. Et je suis fier de porter ce nom de chien de berger. Parce que quand le berger n'est pas là, c'est le chien qui garde le troupeau. Et je défie un ours et un loup de venir vers un chien des Pyrénées, on dirait lion, de venir. Même les voleurs qui voudraient prendre une brebis. Donc, qui nous sommes? Quelle est notre identité? Sommes-nous vraiment des disciples? Ou des statues? Être disciple, c'est ne pas seulement suivre les directives, mais étant attentif à la parole de Dieu et regarder Ésaïe, on retourne dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8, il est dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Je m'arrête là. À partir du moment où Ésaïe ou Paul ont donné leur cœur au Seigneur, ils ont enfin entendu, pour la première fois. C'était extraordinaire, la voix du Seigneur. Je vous demande pas maintenant d'essayer de tendre l'oreille dans l'air, essayer d'entendre la voix du Seigneur. Peut-être qu'il le fera, mais il a un autre moyen, c'est sa lettre d'amour qu'il nous a laissée. Et si on n'est pas attentif à la parole de Dieu, à la Bible, eh ben on passera à côté de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de chrétiens, on va dire, âgés dans la foi, qui me disent, comment peut-on connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Comment peut-on savoir que Dieu veut que je fasse ça? Lis la Bible. C'est court comme conseil, hein? Mais c'est le meilleur, parce que Dieu donne toutes ses directives et ses conseils à travers la parole de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, on le laisse sur la table de nuit ou prendre la poussière dans la bibliothèque. Et quand on voit qu'il a trop de poussière, on se dit, il a trop de poussière, je vais l'essuyer un peu et je vais l'ouvrir un peu pour dire que je l'ai lu. Un disciple, c'est pas ça. Un disciple, un apprenti, un enfant, quand on veut éduquer un enfant, c'est pas juste une fois dans l'année qu'on l'éduque. C'est toute sa vie. Et un disciple du Seigneur doit être éduqué toute sa vie. Mais comment peut-il être éduqué toute sa vie si déjà par lui-même, il ne prend pas soin de son âme et de son cœur? Esaïe a entendu la parole de Dieu, qui enverrai-je qui marchera pour nous. Et ça, c'est beau. Il dit pas qui marchera pour moi, qui marchera pour nous. On pourrait se dire, ah ben, il a les anges, il a... Non. Parce que moi, je ne marche pas pour servir les anges. Je marche pour servir Dieu, mon Créateur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Et quand ici la Bible dit qui marchera pour nous, c'est ce Dieu que nous connaissons qui se présente en trois personnes.
Amen.
On va être convaincu que le Seigneur se présente en trois personnes, et bien là, on a une preuve. Même si on va vous dire, non, c'est pas possible. Soit, et moi j'en suis convaincu, et je marche pour ce Dieu trinitaire, et je marche pour ce Sauveur, parce qu'il le mérite. Lui qui a subi les insultes et les clous, il a donné sa vie pour moi. Et il demande à mon tour de lui donner ne serait-ce qu'un minimum de ma vie. Je termine avec le dernier, c'est l'obéissance, c'est l'engagement que l'on donne. Acte 22, 16, il est dit, si je le trouve, voilà, 22, 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, et invoquant le nom du Seigneur. » En invoquant le nom du Seigneur. Ici, je m'arrête parce qu'on pourrait dire, ah, mais le baptême, il sauve. Parce que Ananias lui dit de se lever, de se faire baptiser, et d'invoquer le nom du Seigneur, et d'être sauvé. Quand on regarde le contexte, à quel moment l'apôtre Paul a été sauvé? C'est sur le chemin de Damas. Quand il a mis sa face contre terre. À partir de là, il reçoit directement l'ordre de se faire baptiser. Bizarrement, il y a un passage qui me vient en tête de l'ordre de se faire baptiser. Donc, il est devenu disciple à quel moment? À sa conversion. Et l'ordre qui suit dans Matthieu 28, c'est « Faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les. » Non, c'est faites des disciples, annoncez l'évangile, faites qu'ils se tournent vers moi, qu'ils m'acceptent, qu'ils reconnaissent que je suis leur Seigneur et baptisez-les. Et ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas enseigner quelqu'un dans la parole de Dieu s'il n'a pas reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais encore moins s'il n'a accepter de lui obéir. Et ici, l'apôtre Paul reçoit cet ordre. Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu maintenant, là, tout de suite, pour commencer ton service? Lève-toi, fais-toi baptiser et commence ton service. Un chrétien qui n'est pas passé par les eaux du baptême, c'est un chrétien qui a honte du Seigneur. Parce que encore une fois, c'est pas le baptême qui sauve, mais le baptême, c'est un acte d'obéissance. On se met face aux gens et on témoigne publiquement de notre appartenance à ce Seigneur. Et quand on plonge dans l'eau, on reconnaît que nous sommes morts à notre ancienne vie. Et quand on sort de l'eau, on annonce que nous sommes ressuscités à la nouvelle vie que Christ nous donne. Et à partir de ce moment-là, on est prêt à entendre et à suivre tout l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Je suis trop triste d'entendre de la bouche de chrétiens me dire « je ne suis pas baptisé ». Le meilleur exemple que j'ai, c'est l'exemple de Philippe et de l'Éthiopien. L'Éthiopien qui est sur son chemin pour retourner où? En Éthiopie. Je suis désolé, en Éthiopie, ils adoraient pas l'Éternel. Ils adoraient des idoles. Mais moi, je vais entendre dans mes oreilles « oui, mais en 2015, on a telle et telle religion, on a telle et telle secte, donc on met des barrières. » L'apôtre Paul, les premiers chrétiens ne mettaient pas de barrières. Ils annonçaient l'évangile, ils annonçaient un Seigneur mort, ressuscité, et prêt à le servir. Ces trois choses-là, les premiers chrétiens l'ont compris. Qu'est-ce qui a changé il y a plus de 2000 ans maintenant, à maintenant, si ce n'est notre désir de suivre Christ. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas servir le Seigneur. On peut, mais on ne lui obéit pas. Parce que on refuse de suivre l'ordre que Christ a donné. Matthieu 28. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On ne doit pas faire la machine arrière. On ne doit pas faire l'inverse. On doit faire dans l'ordre. Et trop souvent, même en tant que serviteur de Dieu, on peut se mettre des barrières. Même en tant que serviteur de Dieu, on peut empêcher un disciple d'avancer. Mais le disciple, lui-même, peut empêcher, s'empêcher lui-même d'avancer. C'est qu'est-ce que nous attendons, nous, pour obéir? C'est des termes qu'on n'a pas souvent envie d'entendre. Obéissance, discipline. C'est des termes qu'on balaye très vite. Mais, pour moi, le service de Dieu, l'appel de Dieu dans ma vie, commence par ces trois conditions. La première, c'est quelqu'un est venu m'annoncer l'évangile, je l'ai accepté, je suis devenu un disciple, et j'ai accepté d'être baptisé. Et ensuite, j'ai accepté de suivre fidèlement l'enseignement de Christ à travers sa parole. Je n'ai pas fait le contraire. Et si on commence à faire le contraire, on va faire fausse route. C'est à nous, frères et sœurs, de se dire, suis-je prêt à obéir? À entendre, qui enverrai-je? Vous pensiez que Dieu envoyait que des pasteurs et des missionnaires? Les disciples ne s'arrêtent pas aux pasteurs et ne s'arrêtent pas aux missionnaires, mais à chacun d'entre nous. Qu'allez-vous décider, frères et sœurs? Faire comme tout le monde, se voiler la face, se mentir à soi-même, ou de décider d'obéir et de me dire, est-ce que j'ai fait ce pas d'obéissance? Bon, je suis convaincu que je suis sauvé, oui. Est-ce que j'ai fait le pas d'obéissance vers les eaux du baptême? Ah non, il faut que je sois parfait. Il faut que j'ai telle et telle connaissance avant de me faire baptiser. L'eunuque éthiopien n'avait pas la connaissance du baptême. Ce qu'il savait, c'est la seule réponse, la seule question qu'il a posée, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La réponse de Philippe, c'était, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Et là, rien ne t'empêche d'être baptisé. Après, oui, l'enseignement que le Seigneur ici dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, là vient l'enseignement sur quelle est l'importance d'être un vrai disciple, quelle est l'importance de servir Dieu, quelle est l'importance d'accroître et de grandir dans sa foi. À vous de décider, frères et sœurs. Allez-vous répondre favorablement à cet appel, comme Ésaïe et Paul, qui ont dit, « Me voici, envoie-moi », ou allons-nous continuer à nous cacher et faire les Jonas? Prions. Seigneur, je viens à toi encore cet après-midi pour te dire merci pour le privilège que tu nous donnes de te servir, de te suivre. Seigneur, ta parole est tellement riche que tu nous demandes de la méditer jour et nuit, d'en apprendre chaque jour. Cet après-midi, je viens particulièrement pour que tu puisses continuer à toucher les cœurs, que tu puisses susciter dans le cœur de mes frères et sœurs ce désir d'être des disciples fidèles, qu'ils soient capables à leur tour de faire des disciples et d'arrêter de nous donner des excuses pour ne pas le faire. Seigneur, que tu puisses, même à travers mes frères et sœurs de cet après-midi, même donner dans le cœur d'une personne de vouloir venir se faire former et apprendre de plus de toi. Seigneur, il n'y a pas de plus beau cadeau que de savoir que nous sommes tes serviteurs. Et ça, Seigneur, ça n'a pas de prix. Seigneur, que cela puisse être vrai dans le cœur de chacun et chacune, et que tu puisses bénir chacun et chacune dans leur vie de chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.